Je pense que tout est essentiel. La main, l'œil, l'olfactif. Je veux dire, un bois, ça sent aussi. Quand il est trop chauffé, ça sent. Donc on voit qu'on va trop loin dans certains actes. Le fait de toucher une clé sur un instrument, de régler un tampon, ben on le fait avec lui aussi. Avant que l'instrument ne sonne, on a des actions sur l'instrument qui peuvent être irréversibles si on peut ne pas les voir, mais les écouter, par exemple. Si quelqu'un travaille avec moi dans l'atelier, j'écoute les coups de marteau, les coups de lime, les coups d'outil, je sais s'il travaille bien ou pas, par exemple, ou si il a une action qui n'est pas dommageable à l'instrument ou qui est en rapport avec un bon travail, quoi. Donc voilà, tous les sens sont en éveil, quoi. Là, on est en amont de ce qu'est la musique dans un atelier comme ça, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les sens, sur l'ouïe, et c'est très important, quoi. Ouais. Je m'appelle Serge Durin, je suis facteur d'instruments à vent, restaurateur d'instruments à vent, et je suis installé à Riom, Puy-de-Dôme, donc dans un atelier où je mène toutes mes petites activités liées à ça. Avant que vous arriviez, bah, je faisais un travail très relativement silencieux. J'étais en train de remonter une clarinette que j'ai réparée, qui avait eu un petit accident. Et du coup, voilà, je suis assis, j'écoute la radio, j'écoute la musique, et puis j'étais en train de remonter toutes les clés de l'instrument, donc ça demande de l'attention et pas trop de perturbations sonores, quoi. Parce que j'écoute ce qui se passe aussi. Par exemple, quand je fais boucher un tampon d'une clarinette, ben, j'écoute aussi comment il bouge. Je teste avec des petits outils pour voir s'il est bien étanche, mais le bruit m'aide à parfaire le travail, quoi. Voilà. Le bruit qui est très très fin, très très faible, quoi. C'est vrai que la facture instrumentale pure, la fabrication d'un instrument, ça va être quoi? Ça va être de l'acoustique, de la physique, des matériaux, des volumes, des trous. On va combiner tout ça. On va essayer de combiner à la fois avec des techniques plus ou moins modernes, plus ou moins archaïques. Et puis après, par exemple, dans la restauration, on va déjà mener un travail supplémentaire de recherche, par exemple, sur l'instrument lui-même. Qu'est-ce qui a été fait à cette époque-là? Qui le faisait? Pourquoi? Pour jouer quoi? Puis après, écouter le musicien qui l'apporte, parce que lui, il va tout vous dire, par exemple. Il va vous dire s'il est stressé parce que l'instrument joue pas comme il veut. Il va vous dire si plein de choses, quoi. Il va vous dire que quel est l'instrument, pourquoi il l'a eu, quand est-ce qu'il l'a eu, qu'est-ce qui s'est passé, quel accident il a eu. Donc déjà, on écoute ça. C'est le premier travail de Louis, et c'est comme un docteur, quoi. Il est là pour écouter d'abord. Enfin, normalement, c'est ce qu'il devrait faire. Et après, ben, on se met d'accord. On essaye de calmer un petit peu le jeu en disant, voilà, on peut faire ça, on ne peut pas faire ça, moi je suis capable de le faire ou je suis pas capable de le faire. Et puis, c'est une approbation commune du travail ou de ce qu'on va faire sur l'instrument. Donc, ça se passe comme ça d'abord. C'est quelque chose que j'ai mené depuis tout jeune, tout petit, de m'intéresser à l'objet sonore. D'abord par le biais du jouet sonore populaire. Donc tout ce qui se faisait en milieu rural et qui se fait encore, ou en milieu urbain, peu importe le milieu, en fait, sur le détournement et l'utilisation de matériaux de la nature ou de récupération ou autre pour en créer des objets sonores, qu'ils soient des jouets sonores, qu'ils soient des instruments simples, comme les instruments populaires ou autres. Voilà. Donc ça, je me suis toujours intéressé à ça. Parce que peut-être mon grand-père m'avait initié à ça tout petit en me fabriquant pas mal d'objets différents, qu'on pourrait appeler des appôts par exemple, pour imiter des oiseaux, les animaux. Je m'y suis intéressé par la suite au cours à chaque fois que je rencontrais quelqu'un ou que j'allais dans un pays, c'était un sujet qui m'intéressait. Donc j'ai rencontré à la fois des acteurs de ce sujet-là, des musiciens, des facteurs d'instruments, des possesseurs de collections, des acousticiens, des chercheurs dans ce domaine-là. Donc moi, ça m'a beaucoup intéressé et je continue toujours. Alors le but de tout ça, c'est pas vraiment maintenant, c'est un petit peu évolué dans mon action, c'est-à-dire que je ne suis pas trop intéressé pour fabriquer des objets sonores comme je faisais à une époque où on prenait par exemple, on va dire un tuyau, on le transforme en flûte. Bon, voilà, ça c'est fait depuis des. Il y a plein de gens qui font ça maintenant. J'essaye d'aller dans d'autres directions qui sont liées à la perception auditive et tout ce qui peut mener à la perception d'un son. Et tout ce qui n'est pas non plus uniquement lié à l'oreille, mais aux autres sens. C'est-à-dire qu'on peut sentir les sons d'une autre façon. Ça, on peut les sentir avec tout le squelette, tout le squelette, tout le système du corps, le toucher, L'œil aussi, on peut voir, on peut rendre visibles les vibrations, les sons. Donc, tous les sens participent à la perception sonore. Ça, c'est important. Voilà, c'est ça un petit peu qui me mène un petit peu dans mes recherches d'instrumentation non conventionnelle, on va dire, de création de structures sonores ou de travail pour des plasticiens, des installations, des installateurs ou des gens qui ont besoin d'instrumentation avec, dans l'idée de, je dirais, de créer des sonorités nouvelles et des nouvelles formes d'interface aussi, quoi. Voilà. Ça reste souvent un travail lié à l'acoustique, ce que je fais. C'est-à-dire que je ne travaille pas avec l'électronique, et du coup, ça reste toujours la matière, l'objet, et ce qu'on peut en tirer au niveau sonore. Ça ressemble pas à des instruments, ça peut ressembler, je sais pas, les derniers que j'ai travaillés, bon, c'était des pierres, voilà. Je travaille sur les pierres, sur les phonolithes en ce moment, c'est-à-dire la phonolithe, c'est une pierre qu'on va trouver dans plusieurs massifs volcaniques, dont ceux qu'on trouve en Auvergne, comme la Roche-Tulière, Saint-Nadoire, comme dans le Cantal, à Menay, ou sur le plateau du Mézenc, qu'on va trouver des coulées de lave qui nous donnent ce qu'on appelle les tuiles, qu'on appelle ça les lauzes ou les pierres qui servent à couvrir les toits, mais qui sont très chantantes, c'est-à-dire si elles sont percutées. Donc, en les choisissant, on peut déjà s'en servir comme ça se faisait il y a très longtemps, au début de sur cette terre, en les percutant avec des os, avec des percussions, avec du bois, avec des bois de renne, tout ça. Ça peut servir simplement comme une percussion classique. Et puis après, cette matière-là, on peut la jouer différemment. C'est-à-dire qu'on peut la mettre en tension, lui créer des tensions, la faire sonner avec d'autres excitateurs. Un excitateur, c'est quelque chose qui va produire le son. On parlait des percussions pour les marteaux, et on peut aussi la travailler avec des archets, la mettre en résonance avec des archets ou avec d'autres formes, avec les doigts aussi, avec voilà, on peut trouver d'autres façons de la mettre en œuvre. C'est ce que je fais en ce moment.